Alors nous accueillons Sylvie Vauclair pour sa conférence sur le soleil dont nous allons parler tout à l'heure. Sylvie Vauclair est astrophysicienne, elle est chercheure à l'Observatoire du Midi de Midi-Pyrénées, professeure à l'Université Paul Sabatier de Toulouse, elle a enseigné à l'Université de Paris. C'est une ancienne élève d'Hubert Reeves et d'Evry Schatzmann. Et ses travaux portent sur la formation, l'évolution des éléments chimiques qui composent la matière dans l'univers. Donc ça, c'est la matière qui naît dans les étoiles, bien sûr. Alors cette matière qui se compose en soleil, étoiles, elle a aussi étudié l'univers primordial. Elle a aussi enseigné en tant que professeure associée dans des universités américaines. Elle est vice-présidente, alors attention, elle est présidente de la Société française des spécialistes d'astronomie. Et elle est accessoirement passionnée par toutes les questions d'enseignement, le partage des connaissances, qu'on appelle quelquefois, sans nuance péjorative d'ailleurs, la vulgarisation, ce qui l'amène à être vice-présidente de l'association des petits débrouillards. Et enfin, quelque chose qui n'a... Enfin, on va voir que ça a à voir avec l'astronomie. En fait, elle a une grande formation musicale et elle est diplômée d'éducation musicale Willems. Elle a participé à des rencontres pluridisciplinaires où la musique est présente. Et nous allons voir en quoi cela a, non pas influé, mais en tout cas en quoi c'est présent dans ses recherches et dans, justement dans les phénomènes qui agitent, entre guillemets, le Soleil.
Donc le Soleil est notre étoile qui est située à peu près 150 millions de kilomètres de la Terre. Le Soleil nous apparaît de façon uniforme, mais pourtant il est constitué d'énormément de choses qui ne nous sont pas accessibles. Quelles en sont, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on peut dire des différentes parties du Soleil ?
Je dirais que le Soleil nous apparaît de façon uniforme quand on le regarde, disons, à l'œil à travers les nuages, par exemple. Là, on voit un disque uniforme. Ou bien quand on regarde la projection de l'image du Soleil sur un écran. Mais dès qu'on regarde le Soleil avec des instruments un petit peu sophistiqués, on s'aperçoit qu'il n'y a rien du tout d'uniforme dans le Soleil. Il y a beaucoup déjà à sa surface, beaucoup de mouvements, beaucoup de, à tous les niveaux de sa surface, des éjections de matière, ce qu'on appelle le vent solaire, avec récemment on a observé des grosses éjections, ce qu'on appelle les éjections de masse coronale. Donc en fait, le Soleil n'est pas, même quand on le regarde, le Soleil n'est pas uniforme. Et en ce qui concerne sa structure interne, parce que je pense que votre question, ça concerne plutôt comment le Soleil est fait à l'intérieur. Et effectivement, le Soleil, donc, c'est une grosse boule de gaz, c'est une grosse boule qui a une masse de 2 milliards de milliards de milliards de tonnes. Et à l'intérieur, il est très structuré. Sa température est très différente. Au centre, elle est de 16 millions de degrés. En surface, 5800 degrés. Sa densité aussi est très différente. Elle est beaucoup plus importante au centre qu'en surface. Donc en fait, ce n'est pas du tout uniforme, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Et ces mouvements qu'on voit à l'extérieur, on sait qu'ils existent jusqu'à une profondeur qui est assez précise, qui est de 200 000 kilomètres, oui.
Alors Sylvie Vauclair, le Soleil, c'est une étoile, et effectivement, c'est une étoile qui a l'avantage d'être très proche, donc étudier le Soleil, quelque part, c'est mieux connaître les étoiles. De la même façon, je suppose qu'on connaît mieux notre Soleil grâce à ce qu'on connaît de la vie des étoiles. Est-ce que c'est un peu vrai, ça ?
C'est tout à fait vrai. Le Soleil, c'est une étoile, c'est une petite étoile, une étoile banale. Et on étudie les étoiles, la structure, la naissance, l'évolution des étoiles d'une manière statistique, parce qu'on voit beaucoup d'étoiles dans le ciel qui ont des masses différentes, qui sont dans des stades d'évolution différents. Donc ça permet de mieux comprendre les étoiles, et le Soleil en fait partie. Par exemple, l'âge du Soleil est bien connu, en particulier parce qu'on le repère par rapport à l'évolution d'autres étoiles. Et inversement, c'est vrai que le Soleil est très proche de nous. Et ça lui donne une caractéristique tout à fait particulière pour l'observation, c'est qu'on peut voir, on voit le Soleil comme un disque, c'est-à-dire qu'on peut voir des portions du Soleil, alors que même l'étoile la plus proche et avec l'instrument le plus important, le plus grossissant qu'on puisse imaginer, on voit toujours l'étoile comme un point.
Alors le Soleil, on commence à le connaître assez bien. Il y a toute une théorie en fait sur le Soleil et la façon dont il fonctionne. Et je crois que par exemple la mesure des neutrinos est en désaccord avec le flux prévu théoriquement. Et ceci a amené l'émergence de ce qu'on appelle l'héliosismologie. Qu'est-ce que justement cette héliosismologie ? Et qu'en est-il du désaccord entre la théorie et puis la réalité ?
Oui, je vais redire les choses un petit peu différemment. Le problème des neutrinos solaires, c'est une chose. L'héliosismologie, c'est une autre chose. Mais c'est vrai que l'héliosismologie apporte des contraintes qui font que le problème devient de plus en plus aigu. Alors, si vous voulez, je vais expliquer un tout petit peu plus. Le Soleil, on comprend très bien d'où vient l'énergie du Soleil. L'énergie du Soleil vient de réactions nucléaires. Le Soleil, c'est un gigantesque réacteur nucléaire. Il se produit au centre du Soleil des réactions de fusion, transformation d'hydrogène en hélium. Ces réactions de fusion fournissent l'énergie du Soleil, mais en même temps, elles laissent s'échapper ces particules qu'on appelle des neutrinos, qui sont des particules très... peut-être sans masse, peut-être avec une masse très 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 faible, on ne sait pas encore exactement. Et ces particules, eh bien, elles peuvent traverser tout le Soleil sans interagir avec le Soleil. C'est-à-dire que les neutrinos qui sont formés dans le centre du Soleil, on les reçoit. Et alors le problème, c'est qu'on en reçoit environ, on connaît ça de façon très 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 précise maintenant, mais je dirais qu'on en reçoit environ le tiers de ce qu'on attend. Et ça, c'est une chose. Alors, une autre chose, c'est qu'on a observé ces vibrations du Soleil, et ces vibrations du Soleil ont conduit à bien connaître l'intérieur du Soleil. C'est ce qu'on appelle l'héliosismologie. Alors, ces vibrations, évidemment, je vais en parler pendant assez longtemps, là, je ne peux pas trop le détailler, mais ce sont des ondes qui se propagent dans le Soleil, et c'est des techniques qui sont très semblables à la sismologie terrestre. On connaît bien le noyau, le centre de la Terre, parce qu'il y a des tremblements de terre, et ces tremblements de terre, disons, ça fait des ondes qui se réfléchissent à l'intérieur de la Terre et qu'on observe à l'extérieur. Et grâce à ça, on connaît très bien l'intérieur du Soleil. Alors maintenant, la difficulté, c'est que donc ces techniques d'héliosismologie conduisent à prouver que lorsqu'on faisait des calculs sur l'intérieur du Soleil, on ne se trompait pas. C'est-à-dire qu'on a vraiment une preuve que nos calculs de l'évolution des étoiles appliqués au Soleil, c'est correct. Donc, le problème des neutrinos est de plus en plus aigu parce que tout marche bien, le Soleil, on le comprend très bien, mais il y a cette difficulté. Alors c'est un cas de rencontre entre les astrophysiciens et les physiciens des particules, c'est-à-dire les gens qui étudient l'infini, le très grand, et les gens qui étudient le très petit. Parce qu'on se demande si ce problème des neutrinos, c'est que quand même, malgré tout, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qu'on n'aurait pas compris dans le Soleil ? Ou alors, est-ce que c'est les physiciens des particules qui n'ont pas compris ce que c'est que le neutrino et qu'il y a quelque chose d'autre ?
Il y a deux méthodes, me semble-t-il, pour observer ces micro-fluctuations solaires. Il y a la méthode spectroscopique, qui consiste donc à décomposer sous forme d'arc-en-ciel, peut-on dire classiquement, la lumière solaire. Et ça consiste à mesurer l'effet Doppler des couches superficielles. Il y a un phénomène, donc, vous allez nous en détailler, de rapprochement ou de décalage du spectre du Soleil. Mais finalement, est-ce que cette étude est limitée par la vitesse de rotation de l'étoile ? Est-ce que cette méthode spectroscopique peut être appliquée au Soleil ?
Alors effectivement, on étudie le spectre du Soleil. Donc le spectre du Soleil, c'est l'arc-en-ciel, comme vous l'avez dit. Et cet arc-en-ciel, donc c'est la lumière, disons, si on parle de lumière visible, c'est la lumière du rouge au violet. Mais quand on regarde cet arc-en-ciel, on s'aperçoit qu'il y a des couleurs qui manquent. Il y a des raies sombres. Et ces raies sombres, c'est parce que le rayonnement qui provient des régions intérieures du Soleil, avant de s'échapper, est absorbé à des longueurs d'onde très précises par les éléments chimiques qui constituent les couches extérieures du Soleil. Et alors ces raies sombres, donc on les observe, par exemple, pour une technique bien connue pour la sismologie, on observe une raie particulière du nickel, mais on pourra en observer d'autres. Et alors cette raie, la longueur d'onde de cette raie au cours du temps change. Et elle change effectivement, c'est à cause de l'effet Doppler. L'effet Doppler en fait, c'est quand un corps émet une onde, si le corps s'éloigne, la longueur d'onde est dilatée. Si le corps se rapproche, la longueur d'onde est contractée. Donc si la longueur d'onde est dilatée, quand il s'agit de la lumière, ça donne une couleur plus rouge. Et si la longueur d'onde est contractée, ça donne une couleur plus bleue. Donc en fait, on voit cette variation de la longueur d'onde de ces traits du nickel qui en fait est due justement à ce que les régions superficielles du Soleil vibrent. Et c'est effectivement la technique la plus appropriée pour l'héliosismologie. Je voudrais dire un tout petit quelque chose quand même, peut-être qui est intéressant à ce sujet. C'est que pour bien utiliser cette technique, il faut observer le Soleil longtemps, très longtemps, plusieurs dizaines de jours. Et donc, comme à un endroit donné sur la Terre, on peut observer le Soleil que dans la journée, eh bien, il faut trouver des techniques pour pouvoir observer le Soleil pendant longtemps. Il y en a trois, ou bien on va au pôle. Et en fait, les premières détections d'héliosismologie, enfin de sismologie solaire, c'était au pôle sud. Ou bien on va dans l'espace. Là, on peut observer le Soleil pendant longtemps. Ou alors, on a des réseaux d'observation sur la Terre, et en particulier un réseau que je connais bien, qui s'appelle le réseau GONG, G-O-N-G, comme un gong, qui veut dire Global Oscillation Network. Et c'est un ensemble de 6 télescopes tout autour de la Terre qui observent le Soleil, non pas en même temps, mais à la suite, pour pouvoir observer le Soleil de façon continue pendant une trentaine de jours.
Car en fait, vous avez parlé de précision par rapport à la fréquence des observations. Cette précision est exactement l'inverse de la fréquence des observations.
La précision, l'inverse, enfin disons que oui, enfin disons que c'est d'autant plus précis qu'on peut observer longtemps. Et surtout aussi quand on observe la variabilité d'une étoile, parce que c'est de ça qu'il s'agit, la sismologie solaire, c'est que c'est une étoile variable, le Soleil en un certain sens. Et si on coupe les observations, quand ensuite on cherche les fréquences d'oscillation, on a des fréquences parasites. Donc il faut couper le moins possible.
L'autre méthode importante que l'on peut évoquer, c'est la photométrie du Soleil, à la mesure de la variation temporelle de la luminosité. Le problème, c'est qu'au sol, les variations d'éclat sont inférieures à la turbulence atmosphérique, cette fameuse turbulence qui est d'ailleurs l'ennemi aussi des astronomes amateurs. N'est-ce pas depuis l'espace qu'avec des satellites et des sondes que l'on peut observer les variations photométriques du Soleil ?
Oui, on peut observer les variations photométriques du Soleil. On peut aussi observer, mais c'est très difficile, il y a des expériences en cours, la variation du rayon du Soleil, mais ça c'est très difficile. Oui, il y a des observations de ce genre, mais c'est quand même la première dont on a parlé, l'observation spectroscopique qui est la plus précise. Alors quand on parle de l'espace, il y a le satellite SOHO qui a été donc envoyé avec... une douzaine ou 14, j'ai oublié le nombre exact, d'instruments différents à bord, enfin beaucoup d'instruments différents à bord pour observer le Soleil de manière très différente. Et c'est vrai que SOHO nous apportait énormément d'informations.
Alors, si on comprend bien, le Soleil finalement nous joue une partition, c'est-à-dire que il y a du son, donc des ondes sonores, donc des oscillations. D'où proviennent ces oscillations et qu'est-ce que l'on sait un petit peu plus maintenant, c'est-à-dire quels sont les résultats apporté par l'héliosismologie?
Vous pouvez imaginer le Soleil comme une gigantesque trompette ouverte dans tout l'espace, c'est-à-dire une sphère tout entière vibrante. Et c'est vrai que ces vibrations du Soleil, c'est du son, ce sont des ondes sonores qui se propagent à l'intérieur du Soleil. Alors des ondes sonores, ça veut dire des ondes de pression, ça veut dire que la matière se compresse et se dilate régulièrement avec une certaine fréquence. Alors il faut dire que les fréquences, ou plutôt les périodes d'oscillation du Soleil, c'est autour de 5 minutes. Alors 5 minutes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui correspond à une fréquence audible pour nous, parce que 5 minutes, c'est comme si on avait un boom, puis 5 minutes après un autre boom, c'est pas du tout une onde audible par l'oreille. C'est parce que le Soleil est très chaud et la vitesse du son est très différente. La vitesse du son varie avec la température ou bien la pression, la densité, donc elle est très différente de ce qu'elle est sur Terre. Mais ce sont quand même des ondes sonores. Alors évidemment, nous ne les pourrions pas les entendre avec cette fréquence-là, mais en plus, ces ondes qui se propagent à l'intérieur du Soleil, elles ne se propagent pas entre le Soleil et nous, il faut bien dire, parce que les gens l'imaginent souvent qu'il y a de la musique qui vient de l'espace. Là, c'est absolument exclu. Le son ne se propage pas dans l'espace, parce que l'espace est vide, l'espace est beaucoup plus vide, même quand il y a de la matière, l'espace est beaucoup plus vide que le vide le plus poussé qu'on peut avoir sur Terre, et le son ne se propage pas dans le vide. Donc il y a des ondes sonores à l'intérieur du Soleil, mais ces ondes sonores ne sortent pas du Soleil, sauf que c'est elles qui créent ces vibrations qui nous apparaissent comme des vibrations lumineuses, finalement.
Alors Sylvie Vauclair, vous êtes musicienne, comme nous disait Daniel tout à l'heure. En quoi votre formation de musicienne vous a permis d'appréhender, avec quelle sensibilité est-ce que ça vous a permis d'appréhender toute cette chanson du soleil et cette chanson astronomique, je dirais?
La musique, le fait que je m'intéresse beaucoup à la musique, je ne pense pas que ça apporte quelque chose particulièrement à l'intérieur du travail scientifique, mais en revanche, dans tout ce qui est le regard qu'on peut porter sur ce travail et le regard qu'on peut porter sur les résultats scientifiques, ça apporte une ouverture extraordinaire. Et pour le soleil, c'est vrai que d'imaginer que ce soleil vibre comme de la musique, c'est en fait comme de la musique, c'est de la musique solaire, mais c'est de la musique qui correspond évidemment pas du tout à la musique qu'on peut faire nous sur Terre. Je trouve ça assez exaltant.
J'aimerais revenir effectivement finalement sur l'héliosismologie et la sismologie stellaire en général. L'étude de ces pulsations solaires me fait penser à une branche de l'astrophysique stellaire qui est tant convoitée aussi par les astronomes amateurs. C'est l'étude des étoiles variables, qui sont des étoiles finalement qui chantent un peu plus fort que le Soleil. Comment peut-on caractériser ces petites pulsations ou de manière relative, ces petites pulsations du Soleil par rapport à la houle gigantesque, paraît-il, qui balaie la surface des étoiles variables en général?
Les étoiles variables sont connues depuis plus de 100 ans maintenant, et ce sont effectivement des étoiles qui chantent beaucoup plus fort que le Soleil, mais aussi de façon beaucoup plus simple. Ce sont des étoiles qui se gonflent et qui se dégonflent comme un ballon de football. Vous imaginez un ballon de football qui devient plus gros, moins gros, plus gros, moins gros. C'est les étoiles variables du genre céphéide qu'on connaît depuis bien longtemps et qui ont en plus été utilisées pour déterminer des distances d'étoiles. C'est très important, ces étoiles céphéides. Alors, ce sont des pulsations radiales. Maintenant, vous imaginez un ballon de rugby qui devient soucoupe volante, ballon de rugby, soucoupe volante, ballon de rugby. C'est ce qu'on appelle des pulsations ou des oscillations non radiales. Et qui sont simples aussi. Mais si on complique les choses, et on complique, on a des oscillations qui sont beaucoup plus petites, et en plus, avec des fréquences, un nombre de fréquences beaucoup plus important. Et finalement, en poussant presque à l'extrême, on arrive au Soleil, qui a donc des vibrations qui ne seraient absolument pas visibles, même de l'étoile la plus proche, avec les moyens dont nous avons actuellement à notre disposition. Si on était sur une planète à côté d'Alpha du Centaure, on verrait pas du tout les oscillations du Soleil, avec les moyens dont nous disposons actuellement. Mais ce nombre de fréquences, c'est fabuleux. Il y a 10 millions de modes d'oscillation dans le Soleil. Donc c'est quelque chose d'extrêmement complexe comparé aux étoiles variables qu'on observe habituellement avec les petits télescopes. Donc c'est vraiment extrêmement complexe, le Soleil. Et nous pensons maintenant que la plupart des étoiles vibrent de cette façon. Et donc on parlait tout à l'heure d'astérosismologie, et c'est vrai que un des projets spatiaux de la décennie qui commence, c'est d'envoyer un télescope dans l'espace pour essayer de détecter ce type de vibrations dans d'autres étoiles, comme le Soleil.
En somme, le Soleil n'est pas ce qu'on pourrait appeler une étoile variable au sens de ce que les variabilistes étudient, c'est-à-dire ces grandes houles, comme disait Gaël. Mais en fait, chaque étoile doit avoir, en plus de ces grandes houles, qu'elle les ait ou qu'elle les ait pas, et là, ces petites vibrations du Soleil qui sont en fait la vie quotidienne, je dirais, de chaque étoile.
Je dirais qu'il y a des étoiles qui ont cette vibration quotidienne, ces petites vibrations quotidiennes. Les étoiles qui vibrent beaucoup, qui ont des grandes vibrations, elles ont peut-être aussi des petites frétillements, mais c'est moins probablement que le soleil. C'est peut-être l'un ou l'autre, oui.
Merci Sylvie Vauclair.
Merci, au revoir.